Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'hier. Peut-être avez-vous entendu cette phrase à l'occasion de repas en famille, de discussions entre amis, entre collègues, voire dans les médias. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'hier. Mais si on y réfléchit bien, ce ne sont pas les enfants d'aujourd'hui qui ont changé, mais leur environnement, la société, la place qu'on leur donne, la famille. Forte de notre expérience auprès des enfants et des familles depuis plus de 20 ans, nous avons pu constater une sorte de perte de repère des adultes lorsqu'il s'agissait de questions d'éducation. Accompagner les adultes, les parents, pour qu'ils prennent soin des enfants nous a donc motivés. Les accompagner à avoir la juste posture, à faire un retour sur eux-mêmes, sur leur propre éducation, sur leur propre histoire, à mieux comprendre ce qui est en jeu dans la relation, mais aussi les grandes étapes du développement du jeune enfant, de l'enfant et de l'adolescent, nous a paru important. Nous avons donc créé l'espace Kanda Attitude. Nous accompagnons la parentalité de manière holistique avec de nombreux outils. Kanda Attitude, une parentalité consciente pour des enfants éveillés.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie.
Comment vas-tu?
Ça va bien. On se retrouve encore une fois pour discuter de sujets qui nous questionnent autour de la parentalité. Et c'est vrai que aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de parler de l'éducation positive, parce que je trouve qu'on en parle beaucoup en ce moment. J'ai entendu beaucoup de psychologues ou de parents ou de pédagogues en parler. Parce qu'aujourd'hui, on remet en cause ce modèle éducatif. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet.
Effectivement. Effectivement, c'est, comme tu le dis, c'est un sujet qui nous questionne et nous passionne en même temps, puisque ça reste un de nos socles d'accompagner les parents vers une éducation bienveillante. Alors, cette remise en question peut être légitime. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils voient dans le défaut de cette éducation. J'imagine qu'il y a ce qu'on appelle des préjugés, donc que ce soit l'enfant roi, un manque de cadre, un manque de discipline. Et donc c'est aussi ce qu'on voulait partager aujourd'hui pour redéfinir qu'est-ce que c'est l'éducation positive et pourquoi il y a des dérives. Pour nous, c'était important quand même de remettre les choses dans leur contexte et le cadre.
Tout à fait. C'est ça. Cadre important.
Exact.
Tout à fait, parce que en fait, on a la société, la famille, les enfants, le rapport entre adultes-enfants a énormément changé ces dernières années. C'est vrai qu'on est passé d'un modèle éducatif qui était très, entre guillemets, paternaliste, très ferme, où les places du parent, de l'enfant était vraiment bien définie et même hermétique. L'enfant était presque considéré comme un petit adulte en miniature et on lui parlait de la sorte. Et puis, il y a eu ça, mai 68 et une remise en cause d'un certain nombre de choses, de modèles. Et on s'est beaucoup plus ouvert. En plus de ça, il y a eu beaucoup de recherches sur l'enfant, le développement de l'enfant. Et notre rapport a changé. On s'est rendu compte que l'enfant n'était pas un petit adulte en miniature, mais qu'il avait vraiment des besoins spécifiques. Et du coup, le rapport à l'enfant dans la famille a énormément changé. Il y a aussi eu, au niveau de la cellule familiale, pas mal de bouleversements. Tout ça pour dire que cette cellule familiale s'est beaucoup éclatée et qu'aujourd'hui, on assiste à pas mal de manque de repères de la part des parents. Les frontières entre enfants et adultes sont assez floues. Ce qui a été intéressant dans ce processus, c'est que l'enfant a été considéré comme un être à part entière en devenir, avec des besoins spécifiques, et qu'on a essayé, dans le modèle éducatif, de l'accompagner à se développer de manière harmonieuse, et surtout qu'on a essayé de rétablir la relation pas dominant-dominé, mais d'essayer de créer une éducation, en tout cas des rapports être à être, en se mettant au niveau de l'enfant. Et il y a tout ce process d'éducation positive qui a un petit peu surgi, qui à la base, moi, je trouve assez intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie.
Oui, totalement. Quand tu as là, me partagé ton point de vue, il y a plusieurs choses qui me sont venues. On est dans une phase, tu sais, on parle de qu'on était dans l'ère du poisson pendant plusieurs temps. Et nous arrivons dans une phase de l'ère du Verseau qui est donc du renouveau déjà, clairement, du renouveau. Le Verseau, c'est aussi tout ce qui est lié à la transmission, bon, aux technologies, à plein d'autres choses. Et en fait, l'ère du poisson qui était aussi plus dans un certain, parfois des dogmes, des religions, en tout cas quelque chose qui était structuré d'une certaine manière. Moi, ce qui est venu, encore une fois, quand tu as parlé, c'est on est passé d'une structure pyramidale, donc hiérarchique, avec un maître ou quelqu'un au-dessus, puis d'autres disciples, ou voilà, le reste un peu plus bas. Et moi, ce qui me parle beaucoup dans plein de sphères dans ma vie, c'est ce cercle. Et donc, je ne sais pas si c'est en lien air du Verseau, air du poisson, mais en tout cas, c'est vraiment le cercle, passer de la forme géométrique de la pyramide au cercle. Et le cercle, eh ben, c'est ce que tu disais, des relations à parité, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le professionnel, avec son supérieur hiérarchique, ou même, tu vois, le mot supérieur hiérarchique, ça montre bien dans quel système on était à aujourd'hui ce cercle, que ce soit avec nos enfants, nos parents, peu importe, mais de considérer chaque être tel qu'il est, avec respect, avec empathie, bienveillance. Et donc l'enfant, je pense qu'il est aussi à remettre dans le cercle, parce que peut-être qu'on l'a compris avec des adultes, mais... L'enfant, on peut voir souvent ce besoin de l'adulte de donner son éducation d'une certaine manière sans pour autant écouter les besoins de l'enfant. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on veut partager, c'est que l'enfant a des besoins, comme tout un chacun. Et donc d'où l'intérêt de cette éducation-là. Tu parlais aussi des structures familiales qui ont éclaté. Ce qui m'est venu aussi, c'est le podcast... Notre initiative s'appelle Kanda, donc c'est vraiment la communauté. Et il est vrai que dans d'autres traditions, et encore aujourd'hui, on peut voir, et comme on le dit, qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc l'enfant, c'est pas l'enfant de son parent, mais c'est vraiment l'enfant du village. La communauté est un réel soutien dans ce processus éducatif. Il est vrai que lorsqu'on est soutenu, qu'on a un entourage, qui, je l'espère, bienveillant, ça aide à soutenir ce chemin qui est la parentalité. Et à l'époque, j'avais fait un article sur la communauté, le peuple des Débélés, qui sont en Afrique du Sud. Et je me disais, c'est fort, parce qu'en fait, l'éducation positive, elle existe depuis toujours. Eux, ils avaient trouvé justement ce système éducatif qui aujourd'hui on appelle éducation positive, discipline positive, peu importe, où eux, la punition n'existe pas. Parce qu'ils partent du principe que tout ce que tu fais, c'est vraiment une expérience, en fait, c'est un apprentissage. Et donc, plutôt que d'exclure la personne qui aurait fait, entre guillemets, une bêtise ou quelque chose qui n'est pas dans l'ordre, on va dire, il était mis au milieu d'un cercle et, en fait, il était... un peu béni de plein de belles paroles. On le soutenait vraiment avec des mots très bienveillants pour le reconnecter avec cette part de lui, cette bonté en fait, qu'il a en lui. Et ce n'est pas une mauvaise personne parce qu'il a fait ce choix-là, cette expérience-là, à ce moment-là. Donc vraiment, le connecter et le reconnaître, en fait, tel qu'il est, sa part vraiment de lumière. Et ça, c'était trop fort. Donc, c'était plein de paroles, c'était aussi... Des accolades, plein de choses, en fait, plein d'amour. Et je me suis dit, mais en fait, c'est de l'éducation positive, ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. quand tu m'as partagé ouais, cela.
Ouais, et pour rebondir, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'en ai parlé. Le manque de repères, pour moi, explique pas mal de choses et la place de chacun, c'est important. Et je trouve que c'est assez brouillé dans notre société, la place des parents, la place des enfants, les enfants qu'on veut, on les met dans le monde des adultes assez rapidement, et des adultes qui veulent rester dans le monde des jeunes, des enfants. Les familles éclatées aussi. Je ne veux pas dire que les familles monoparentales ne peuvent pas s'en sortir, mais si la structure papa-maman et enfant, c'est quand même la structure la plus juste pour le développement des enfants. Et on assiste quand même à beaucoup de familles qui sont éclatées, les séparations. Et au-delà du couple, avant, on vivait dans des modèles intergénérationnels. Les grands-parents, les parents vivaient les générations avec les jeunes. Les générations étaient plus proches les unes des autres. Non pas qu'aujourd'hui, les grands-parents ne sont pas présents, mais de manière globale, on est moins en lien. Et je pense que cette perte de repères a contribué à un certain nombre de dérives. Les parents peuvent se sentir parfois perdus dans leurs émotions, dans qu'est-ce que c'est être parent, puisque les modèles sont loin, les soutiens peuvent être loin. Et aussi, peut se rajouter une certaine culpabilité avec les modes de vie que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire faut travailler, on se lève tôt le matin, on rentre tard le soir. Bon, encore une fois, je schématise, mais c'est un peu ça. Et on a envie du meilleur pour son enfant, on se met aussi la barre haute parce que la société nous renvoie aussi une certaine performance parentale et de ce que peut être la famille idéale et l'enfant idéal. Du coup, tout ça combiné fait que parfois on s'écoute moins et on peut être parfois perdu et on peut se rattacher à certaines pédagogies, ce qui est très bien. Ça peut donner des idées, mais on oublie aussi parfois de se relier à sa créativité, surtout à son intuition de parent, et à prendre du recul sur tout ça. Tout à l'heure, tu parlais par exemple de la punition. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des alternatives à la punition. Ce qui est important, c'est que l'enfant, s'il a commis un acte ou il a eu un comportement qui n'était pas adapté socialement, parce que souvent c'est ça, comment on peut l'accompagner pour qu'il intègre le cadre et surtout qu'il intègre que sa façon de faire n'était pas socialement ou même pour lui correcte. Assieds-toi ici, mets-toi dans le coin, on peut dépasser ça et proposer des alternatives où l'enfant va petit à petit intégrer un certain nombre de choses. Mais parfois il y a des amalgames. Et je trouve le sujet là qu'on est en train de parler, qui est l'éducation positive, qui prône les relations d'égal à égal, enfin d'être à être, sauf qu'il y a un être qui a un peu plus d'expérience, qui accompagne le tuteur, le parent qui accompagne un être qui est en devenir, mais qui le considère en tant que personne. Donc on prône de beaucoup communiquer, de faire attention aux besoins de l'enfant, mais dans cette communication, en tout cas moi, dans mon travail, je suis confrontée aux enfants et aux parents de manière quotidienne, je me rends compte que y a des petites dérives, c'est-à-dire que l'enfant commence à tout lui expliquer. Mais des choses, on le noie littéralement dans un flux de mots qui, finalement, c'est trop.
Oui.
Un petit exemple qui va peut-être faire sourire, mais... J'ai échangé avec des directrices de crèche, éducatrices de jeunes enfants, qui illustrent une situation où le parent a expliqué à son enfant que voilà, tu entends, là dehors, il y a des manifestants parce que ils font la grève, ils sont pas contents pour le régime des retraites. Tu vois, les retraites qui commencent à être dans une explication à un enfant de 2 ans et demi qui ne devrait pas être finalement. Et qu'à force parfois de vouloir tout expliquer, on insécurise quelque part l'enfant. Parce qu'il faut se mettre aussi à son niveau de compréhension. en termes de dérive, ce que je peux observer aussi, c'est « Mais vas-y, mon chéri, exprime-toi, dis-moi tous tes mots, je suis à ton écoute. Tu veux faire ça ? Ben oui, tu vas faire ça. Pas de frustration. Mmh. » Alors, ce que prône l'éducation positive et la communication non-violente aussi, c'est l'expression des ressentis et des besoins. C'est-à-dire que l'enfant peut exprimer son envie, par exemple, d'avoir une glace, tandis qu'il a déjà mangé après son dessert et que nous, on considère que ça va faire trop pour son organisme. Il a le droit de le dire, il n'y a pas de souci. Sauf que nous, en tant qu'adultes, on doit le réguler et l'accompagner en disant « j'entends ce que tu dis, je reconnais ce que tu dis, mais là, ça ne va pas être possible. » Je pense que parfois, il y a des dérives parce qu'on veut absolument être dans l'écoute, mais on n'est pas de bord, on n'est pas de règles. Et je trouve ça déjà questionnant et quelque part dangereux parce que l'enfant a besoin d'un cadre de bord. Parce que s'il n'a pas de bord, il va s'étaler de manière imagée. Hein, et ça, c'est destructeur et c'est insécurisant dans le développement.
Totalement. Et en fait, ça me fait poser une question. C'est ces parents qui sont justement dans ce dialogue constant, dans ce besoin de tout expliquer, etc. Déjà, ça pose une question sur est-ce que c'est juste pour eux, est-ce que c'est écologique pour eux, dans le sens où tu laisses l'enfant s'exprimer et tu écoutes en plus son besoin et donc tu ne lui mets pas ce cadre-là. Tu suis son besoin, d'accord ? Mais jusqu'où, en fait, on peut le suivre son besoin ? Où est la limite ? Je crois qu'à un moment, ça peut être le risque. Et c'est là où il y a des dérives, parce que la discipline positive, ce n'est pas permissif. C'est vraiment accompagner l'enfant et le respecter en tant qu'être, être à son écoute, mais pas au détriment non plus de soi, de ses propres limites. Parce que ça demande aussi à placer ses limites en tant qu'adulte aussi. À quel moment est mon nom, que mon nom soit un non, que mon oui soit un oui, quoi. Et non pas pour faire plaisir. Et donc ça, je crois que ça renvoie à d'autres choses, les personnes qui arrivent à tout accueillir au point de peut-être même de se détruire. Parce que je crois que c'est aussi important, et ça c'est aussi ce qui est écrit, par exemple, j'ai le bouquin « La discipline positive » à côté. Et on dit que c'est une méthode ni permissive ni punitive, dans un cadre à la fois ferme et bienveillant, pour respecter le monde de l'adulte. Donc c'est pourquoi ferme, et bienveillant pour respecter celui de l'enfant. Donc vraiment, ce côté ferme, pas dans l'idée de contrôlant, mais c'est important que ce soit écologique pour chacun, en fait. Mais que la personne puisse être aussi à l'écoute de ses propres besoins. En fait, ça demande à jongler entre ses besoins et celui de son enfant. Et trouver une forme de compromis, quoi. Et cette voie du milieu qui, je crois, nous la cherchons un peu tous, de façon générale. C'est là où ça renvoie à ce que tu disais. C'est aussi se connecter à son intuition. L'idée, c'est pas d'être comme un livre, parce que nous sommes des êtres à part entière. L'enfant aussi, on l'a déjà dit dans le précédent podcast, nous avons une histoire singulière et donc le livre, on peut dire que c'est un guide, mais ça demande tout de même faire preuve de lucidité, d'esprit critique, de voir ce qui est juste pour nous et vraiment revenir à l'intérieur de soi. Est-ce que là, quand je suis en train de tout expliquer ou lorsque je suis en train de tout laisser faire, c'est juste pour moi. Ça demande de toujours faire une forme de retournement, finalement.
Oui, tout à fait. Mais je l'ai déjà exprimé tout à l'heure, mais je pense pour moi que le manque de repères a contribué à ça. Par rapport à la place de chacun, l'éclatement de la famille, de la cellule familiale. La culpabilité aussi qu'on peut avoir en tant que parent du fait de travailler, d'avoir moins de temps avec son enfant, d'avoir envie quand on le retrouve, que les relations soient positives. Donc, on dit souvent oui, on va souvent dans le sens de l'enfant. Quelque part, bon, je ne dirais pas que c'est le process pour tout le monde, mais souvent, avec cette notion de culpabilité qui peut être plus ou moins inconsciente derrière, on a envie de tout lui offrir, de tout lui permettre. En plus de ça, je dirais que l'apport des neurosciences sur le développement de l'enfant, qui nous font comprendre comment il fonctionne, notamment son rapport au monde, notamment avec le développement de son cerveau, fait que parfois on peut se dire « Ah, si je lui propose telle ou telle expérience, ça va le marquer dans son développement, dans son corps. Limite, je vais le traumatiser, ça va lui apporter des choses. » Donc tout ce flux d'informations, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ce que la société génère en termes d'image de ce que peut être un bon et un mauvais parent, tout ce mélange-là fait que je pense qu'on est parfois perdu, parfois on ne sait pas trop, et qu'on a envie de chérir son enfant, et on ne sait plus trop s'il faut dire oui, il faut dire non, il faut du cadre, il ne faut pas du cadre. Moi, ce que je tenais à dire, voilà, ce qui est important, c'est effectivement ce que je trouve important dans les apports de cette vision de la relation parent-enfant, c'est cette relation d'être à être. Je trouve ça assez intéressant. L'écoute des besoins, comme tu as dit, déjà de ses propres besoins. Parce que si on n'est pas à l'écoute de ses propres besoins, quand son enfant va exprimer ses besoins à lui, des fois, dans la rencontre de besoin à besoin, ça va peut-être se percuter et faire qu'il va avoir une tension. Ce qui peut être intéressant, c'est des fois de se poser, de constater quels sont ses propres besoins. Un exemple, quand on dit à son enfant « Oh, il est 19h30, allez, c'est l'heure d'aller dormir, là, tous les enfants doivent dormir. » Et que son enfant, c'est le week-end par exemple, il n'a pas forcément envie de dormir à 19h30 précisément. Et nous, on insiste, et parfois, on pourrait décaler l'heure du coucher un peu plus tardivement, mais en fait, finalement, le besoin qui est là, c'est peut-être plus celui du parent qui a envie d'avoir un moment tranquille, et que du coup, il y a une espèce de tension qui se crée, de constater que, en fait, c'est nous qui avons envie d'être tranquille. On peut aussi le verbaliser à l'enfant, ce qui amène moins de tension. Tout ça pour dire que éducation positive, oui. Positif parce qu'on recherche des relations bienveillantes les uns avec les autres. Mais je rajouterais aussi éducation raisonnée. Certes, la raison, on pourrait peut-être l'opposer à l'intuition, mais la raison dans le sens on ne fait pas n'importe quoi et que derrière, il faut s'écouter. Voilà tout ce que ça m'évoque comme réflexion, comme questionnement.
Ouais, quand tu parles de raisonner, c'est là où, je parlais tout à l'heure d'essayer d'être lucide sur la situation, sur nous-mêmes, en tout cas d'essayer de se poser quelques questions et revenir vraiment à son besoin, quoi. Est-ce que ça, quand je fais ça, c'est juste pour moi? Parce que de toute manière, l'enfant, il est en miroir. Donc, dès qu'il y a une forme de doute intérieur, forme de flou, qu'il y a une porte qui est ouverte, l'enfant, il y rentre. Il vient aussi nous apprendre, il nous apprend sur nous-mêmes. C'est pourquoi on dit que la parentalité, c'est vraiment un chemin initiatique. Parce que vraiment, au contact des enfants, de nos enfants, de notre parentalité, on se transforme. Ça vient chercher des choses très profondes. Donc, c'est parfois des bouleversements. Certains parlent de burn-out maternel. Je ne sais pas si c'est que les mamans. On sait que ça vient vraiment bousculer énormément de choses. Comme tu le disais au début, les structures familiales ont beaucoup bougé. Et c'est vrai que quand on voit dans... Alors moi, je parle beaucoup de tradition parce que c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Et pour aussi l'avoir vécu, quand tu es entouré et avec bienveillance, tu peux aussi vivre ces moments... pour toi. Et c'est un peu parfois la difficulté qu'il peut y avoir dans nos sociétés de type occidental. Tu dois travailler, faire les devoirs, t'occuper du quotidien en fait. On est sur tous les fronts et c'est vrai que c'est pas facile d'être sur tous les fronts, notamment en plus. Alors si par-dessus tu es dans un foyer monoparental, ça charge encore plus la structure. Ce pourquoi, ben, on revient toujours à dire, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et l'idée, nous, des podcasts, de ces transmissions, c'est vraiment d'informer, de partager et non de culpabiliser. Donc voilà, mais c'est vrai que ces structures-là, aujourd'hui, jouent dans ce qu'on est en train de transmettre à nos enfants. Et ça, on est consciente que c'est un challenge. C'est vraiment un challenge. Et donc on félicite tous les parents, hein, qui œuvrent pour leurs enfants, parce que on sait que chacun fait au mieux, quoi.
C'est un challenge, mais une belle expérience, parce que effectivement, c'est initiatique. Ça vient toucher à des choses fortes, puisque ça, c'est des rappels. Des rappels de nous, quand on était enfant, de nos parents, de nos lignées, paternelles, maternelles, que ça vient réactiver parfois des blessures, des fois qui nous incombent, ou qui sont transgénérationnelles. Mais c'est une très belle expérience, parce qu'on en ressort grandit, et on grandit d'ailleurs avec nos enfants, pour que ça soit une expérience qui puisse nous permettre de transcender, de s'élever. Ben, il faut être à l'écoute effectivement de nous, de nos besoins en tant qu'être, en tant que parent, pour être dans un accompagnement le plus juste possible, le plus distancié, dans le sens où on essaye d'éviter les projections de notre propre histoire sur notre enfant, pour pouvoir être dans la rencontre, d'être à être, un être qui sera un tuteur, qui sera là pour accompagner un autre être à grandir, à s'élever. À la fois, parfois, le tuteur, il n'est pas si droit que ça. Il va un peu vers la gauche, vers la droite, il est un peu bancal. Il peut se redresser, mais même s'il est à gauche, à droite, il va à gauche, à droite, il peut quand même amener cet être en devenir à s'élever. Et pour ça aussi, il faut croire en nous, enfin, en tant que parents, et se relier intrinsèquement à nous, à notre enfant intérieur. Et voilà, ça peut être une très, très belle expérience.
Totalement. Eh bien, personnellement, je n'ai rien à rajouter. Je trouve que c'est une très belle fin. Je ne sais pas si toi, tu avais autre chose à dire.
Non, et puis on pourrait parler des heures. Là, on fait un petit peu rapidement le tour de ce sujet. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la famille, des lignées, de la tradition, du collectif, et de tout ce qu'on a un petit peu abordé de manière assez succincte aujourd'hui. Il me semble qu'on a fait un petit peu le tour.
Oui, et on essaye de faire des partages assez digestes aussi. Et c'est vrai que nous avons aussi pour projet de proposer des ateliers en présentiel. Donc ce sera aussi l'occasion de pousser un peu plus, d'approfondir... selon les thèmes abordés. Voilà. Et je te remercie, Emmanuel.
Merci, Marie.
Et puis, on vous dit à très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Zola.
Zola.